VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 25 octobre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Mali, 3 morts dans l'attaque d'un poste de péage au village de Sanankoroba. Inquiétude des populations locales.
Au Niger, le gouvernement opte pour les patrouilles mobiles anti-djihadistes plutôt que les postes militaires installés dans les zones d'accueil de réfugiés maliens.
En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ex-première dame Simone Gbagbo ont suspendu leur participation au procès de leur cliente.
En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition rejette la décision du gouvernement de retirer le pays de la Cour pénale internationale.
Au Pakistan, au moins 58 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée à un groupe islamiste contre une école de police.
En Irak, l'offensive pour reprendre Mossoul se déroule bien, estiment les responsables américains qui s'attendent à une résistance accrue des djihadistes.
Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, 3 personnes ont trouvé la mort dans l'attaque d'un important poste régional de péage dans le village de Sanankoroba. Ses habitants vivent dans une grande inquiétude après plusieurs attaques à main armée, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
Situé à 35 km de Bamako, Sanankoroba est connu grâce à son village SOS d'enfants. Dans ce village se trouve un poste de péage dont la recette annuelle est de quelque 14 milliards de francs CFA selon les chiffres de l'autorité routière. Sanankoroba est sur la route de Sikasso, située au sud du pays. C'est le poste de péage de ce village qui a été attaqué ce lundi aux environs de 19h. Le bilan est de 3 morts, dont 2 agents de l'autorité routière, 1 planton et 4 blessés. Le seul gendarme qui était sur les lieux a fui selon les habitants. Le poste de péage de Sanankoroba est bien fréquenté, car tous les camions en provenance des ports d'Abidjan, Lomé et Ghana passent par là. Ce qui fait que sa recette journalière est très élevée, d'après une source de l'autorité routière. À Sanankoroba, cette attaque n'est point une surprise, car il y a 2 semaines, les mêmes malfrats avaient attaqué la pharmacie officine de Sanankoroba. Pour le moment, aucun habitant interrogé n'a pu nous dire avec certitude s'il s'agit des bandits armés ou une attaque terroriste. Pour eux, il n'y a aucune différence dans la mesure où c'est un crime organisé. À signaler que les corps des 3 victimes ont été acheminés au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, le gouvernement a supprimé les postes militaires installés dans les zones d'accueil des réfugiés maliens. Ils seront remplacés par des patrouilles mobiles. Les détails avec Nani Talani.
Selon un haut responsable du ministère nigérien de l'Intérieur, le gouvernement opte désormais pour des patrouilles militaires à la place des postes statiques dans 2 zones d'accueil des réfugiés maliens. Officiellement, il ne s'agit pas d'un retrait, mais de changement de mode opératoire. Cette nouvelle mesure concerne Tazalit et Intikane, 2 zones de la région de Tawa qui accueillent 22 000 sur les 60 000 réfugiés maliens au Niger. Ces 2 localités, d'après un travailleur humanitaire, sont des zones d'accueil où les réfugiés éparpillés sur plusieurs kilomètres viennent périodiquement pour recevoir leur ration alimentaire. Jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, s'est rendu à Tazalit pour évaluer le dispositif sécuritaire. Il a notamment souligné des défaillances qui expliqueraient la célérité avec laquelle l'attaque du 7 octobre a été exécutée. 22 soldats nigériens ont été tués, probablement par des djihadistes.
En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ex-première dame Simone Gbagbo ont suspendu leur participation au procès de leur cliente, la cour ayant refusé de faire témoigner des personnalités que la défense voulait faire entendre. Arzuma Compaoré.
La première audience consacrée aux témoins de la défense devait commencer hier. Les avocats de Mme Gbagbo souhaitaient entendre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et ancien chef rebelle, Jeannot Kouadio-Aoussou, ancien premier ministre, Charles Kofi Dibi, un ancien ministre, et le général Philippe Mangou, l'ex-patron de l'armée, entre autres. Cette requête avait été rejetée après 2 heures de délibération. Le juge Boaki Kwadjio a déclaré que la cour ne peut citer ces personnes à comparaître car aucun texte ne l'autorise. Dohora Blédé, un des avocats de Mme Gbagbo, a alors annoncé la suspension de leur participation, se donnant un délai de 4 jours. La cour d'assises d'Abidjan juge Mme Gbagbo depuis le 31 mai. Elle est accusée de crimes contre l'humanité. Elle purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée a annoncé l'arrestation d'un chef rebelle des FDLR, cette rébellion Hutu rwandaise accusée de nombreuses exactions. Anastasie Toudiech.
L'un des porte-parole de l'armée, le major Guillaume Djike, a confirmé l'arrestation d'un haut officier des FDLR dans le Rutshuru et son transfèrement à Goma pour interrogatoire. Il n'a donné aucun détail sur les circonstances de cette arrestation. Le CEPADO, une ONG du Nord Kivu, précise que le colonel Abiyarimana Musebo Sofuni, commandant en charge des renseignements à l'état-major des rebelles rwandais, a été arrêté dimanche à Kiwanja. Mi-août, l'armée congolaise avait arrêté Patrick Sabimana dans le Nord Kivu. Il était responsable de la sécurité du chef rebelle Hutu rwandais Sylvestre Mudakumura, toujours recherché par la justice internationale. Les FDLR opèrent essentiellement au Nord et au Sud Kivu. Depuis 2001, ils n'ont pas mené d'action militaire d'envergure au Rwanda et ils sont régulièrement accusés de commettre des atrocités contre les civils dans l'est de la République démocratique du Congo.
En Afrique du Sud, le principal parti d'opposition rejette la décision du gouvernement de retirer le pays de la Cour pénale internationale. Le point avec Timothée Donangmaï.
L'Alliance démocratique a saisi la Cour constitutionnelle sud-africaine pour bloquer cette initiative, estimant que la lettre adressée à l'ONU annonçant le retrait de l'Afrique du Sud de la CPI viole la Constitution. Ce parti d'opposition a expliqué que le gouvernement est tenu d'obtenir au préalable une résolution votée au Parlement autorisant un tel retrait. Les autorités sud-africaines ont entamé leur démarche après le tollé provoqué par leur refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, recherché par la CPI. Pour le gouvernement sud-africain, interpeller le dirigeant soudanais violerait les règles internationales en matière d'immunité. Dans une déclaration lundi, le secrétaire général de l'ONU a dit regretter la décision du gouvernement sud-africain. Rappelant l'important rôle de l'Afrique du Sud dans l'établissement du traité de Rome, Ban Ki-moon a dit espérer que ce pays reviendra sur sa décision avant qu'elle entre en vigueur.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les responsables américains considèrent que l'offensive pour reprendre Mossoul au groupe État islamique se déroule bien. Mais ils préviennent que la résistance des djihadistes va s'accroître à mesure que les forces irakiennes s'approcheront de la ville. La vaste et complexe opération lancée pour reprendre Mossoul est entrée dans sa deuxième semaine. Et les ministres de la Défense de la coalition internationale anti-djihadiste se réunissent à Paris aujourd'hui pour faire le point et examiner les divers scénarios envisageables pendant et après la reprise de la ville.
Et puis l'ONU a blâmé hier à la fois Damas et les rebelles en Syrie pour leur incapacité à organiser des évacuations médicales pendant la trêve qui vient de prendre fin à Alep, dans le nord du pays, en proie à une grave crise humanitaire. Les affrontements ont repris à Alep entre les forces du régime syrien et les rebelles au lendemain de l'expiration d'une trêve décrétée par la Russie qui n'a pas permis l'évacuation de blessés des quartiers assiégés. Une nouvelle trêve humanitaire à Alep n'est pas d'actualité, a déclaré lundi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov.
Au Pakistan, au moins 58 personnes ont péri lors d'une attaque attribuée à un groupe islamiste contre une école de police située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Quetta, la capitale de la province instable du Baloutchistan, ont indiqué les autorités. Un précédent bilan de 44 personnes tuées et 118 blessés a été revu à la hausse ce matin. Selon l'armée, les assaillants ont pénétré avant minuit dans l'établissement et après plusieurs heures d'échanges de tirs, ils ont été délogés et l'établissement sécurisé.
Présidentielle américaine enfin, la démocrate Hillary Clinton et son rival républicain Donald Trump ont donné hier le coup d'envoi des deux dernières semaines de la campagne. Monsieur Trump a prédit qu'il ferait mentir les sondages avec une surprise dans les urnes digne du Brexit. Les sondages donnent à Mme Clinton 45% des intentions de vote en moyenne contre environ 40% pour Donald Trump. Cette avance est très supérieure à celle qui a permis à Barack Obama d'être facilement réélu il y a 4 ans. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Selon la Commission bancaire de l'Afrique centrale, les 52 banques de la région vont faire face à la montée des créances en souffrance. Celles-ci sont en hausse de 42% et l'excédent de trésorerie recule de 17% du fait d'une progression du volume des crédits distribués et d'une baisse des dépôts collectés. Le Burkina Faso souhaite mobiliser plus de 9 milliards de dollars pour le financement du plan national de développement économique et social, estimé à plus de 25 milliards, lors de la conférence des bailleurs prévue à Paris les 7 et 8 décembre, a déclaré hier le Premier ministre Paul Kaba Tieba. Les 2/3 du plan seront financés par des investissements publics et privés burkinabés. Après avoir démenti avoir accepté l'offre de la Banque de l'Habitat tunisienne pour le rachat de celle de la Côte d'Ivoire, le comité de privatisation a lancé un appel d'offres pour sélectionner un conseil pilotant la vente de l'établissement public. Selon Jeune Afrique, l'option arrêtée est une cession totale des parts de l'État, soit 55,9%.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
La Confédération africaine de football a procédé ce lundi au tirage au sort des CAN des moins de 17 ans et des moins de 20 ans qui se tiendront l'an prochain à Madagascar et en Zambie.
Oui, le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui sera composé du pays organisateur, la Zambie, face à la Guinée, l'Égypte et le Mali. On retrouvera également dans le groupe B les Lions de la Teranga, les Lionceaux, les Sénégalais, le Soudan, le Cameroun et l'Afrique du Sud. On rappelle que les demi-finalistes seront qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie qui se déroulera en Corée du Sud en 2017. Quant à la Coupe du Monde des moins de 17 ans, dans le groupe A, le pays organisateur, Madagascar face à la Guinée, le Cameroun et le Ghana. Dans le groupe B, le Mali contre le Congo, l'Angola et le Niger. Là encore, les demi-finalistes de cette CAN seront qualifiés pour la Coupe du Monde de la catégorie. Elle aura lieu en 2017. Cette fois, ce sera en Inde.
La liste des prétendants au Ballon d'Or se rétrécit.
Antoine Griezmann, le meilleur buteur de l'Euro et surtout Cristiano Ronaldo, le grand favori pour ce trophée, figure parmi les 30 postulants au Ballon d'Or annoncé hier par France Football. CR7 qui a remporté la finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid au printemps, puis l'Euro 2016 avec le Portugal cet été, fait figure d'archi-favori pour succéder au tenant du titre Lionel Messi. On rappelle que l'attaquant portugais vise son 4e ballon d'or après ceux décrochés en 2008, 2013 et 2014. La liste des 30 nommés comporte également deux joueurs africains, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui joue au Borussia Dortmund et l'Algérien Riyad Mahrez qui joue pour Leicester.
Étude écossaise inquiétante sur le jeu de tête qui affecterait la mémoire des footballeurs.
Et oui, le jeu de tête en football peut avoir un impact significatif sur les fonctions de la mémoire et du cerveau, selon les résultats de cette étude menée à l'université écossaise de Stirling. Les capacités de la mémoire peuvent être réduites de 41 voire 67% selon les résultats de cette étude menée pendant les 24 heures suivant une séance de jeu de tête. La recherche se base sur une série de 20 têtes effectuées par un groupe de joueurs reprenant un ballon propulsé par une machine à la vitesse et à la puissance d'un ballon tiré du point de corner.
Le retour de la NBA sur les parquets nord-américains.
Et oui, pour vous l'amateur de ballon orange, avec l'arrivée de Kevin Durant à l'intersaison, Golden State a conforté son statut de terreur de la NBA, mais il en faudrait plus pour décourager le champion en titre Cleveland et LeBron James. Avant le coup d'envoi de cette saison, ce sera la nuit prochaine. Kim Jens, on s'en souvient, a tenu parole. En juin dernier, il a offert à Cleveland le premier titre NBA de son histoire au terme d'une finale au scénario palpitant. La mégastar de la NBA, épaulée par Kyrie Irving, a assommé les Warriors de Stephen Curry, qui menait pourtant 3-1 en finale. Notre objectif cette saison est de tout faire pour conserver notre titre, a déclaré LeBron James.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burundi, la journaliste américaine Julia Stiers a quitté hier Bujumbura après sa brève interpellation dimanche. La journaliste, qui est basée à Nairobi, était en compagnie de son confrère burundais Gildas Yihundimpundu et du chauffeur qui les accompagnait. Un reportage dans un quartier de la capitale. Ces derniers ont été libérés lundi. Suite aux violences provoquées par la crise électorale au Burundi, les journalistes travaillent dans un contexte très difficile. Timothée Donangmaï s'est entretenu à ce propos avec le journaliste burundais Éloge Willy Kaneza, récipiendaire du prix Peter Maclear 2016, qui lui a été décerné pour son travail au sein du groupe SOS Média Burundi.
Depuis l'an passé, il y a une centaine de journalistes qui ont fui, il y a des médias indépendants qui ont été détruits et certains journalistes sont assimilés aux opposants. Vous voyez qu'il y a une certaine opinion qui, jusqu'à aujourd'hui, voit des journalistes indépendants ou des journalistes des médias privés comme tels. Mais aussi, le Burundi, c'est pas comme d'autres pays, comme ici aux États-Unis où c'est un vaste pays. Tout le monde connaît tout le monde, que ce soit les bourreaux, que ce soit les victimes. Et en fin de compte, le journaliste qui est aussi burundais, il connaît tout le monde. Il peut se trouver que parmi ces catégories de gens, il se trouve des parentés ou des voisins. Vous voyez, c'est toujours très, très sensible d'être journaliste sur le terrain. C'est pourquoi le professionnalisme s'impose quand on est sur le terrain.
Est-ce que cela vaut la peine de prendre tous ces risques-là pour informer les Burundais?
Ça vaut la peine de prendre tous ces risques parce que, en tant que journaliste, j'aime le dire, il n'y a aucun autre moyen de servir notre nation parce que quand on reporte de façon neutre, de façon impartiale, de façon professionnelle, nous contribuons à la promotion des valeurs de la paix, des valeurs de réconciliation, des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté d'expression et des libertés fondamentales.
Est-ce que ce travail que vous exercez dans un contexte très difficile est compris par les Burundais?
Il est compris par les Burundais, je crois. Même ceux qui ne le comprennent pas, je crois qu'ils essaient de se voiler la face. Sinon, tout le monde connaît ou devrait connaître et comprendre l'apport des médias. On n'est pas là pour soutenir tel ou tel, même s'il y a des gens qui le pensent ainsi. Nous, médias, on est là juste pour reporter ce qui se passe, pour montrer aux gens ce qui ne va pas, mais aussi pour montrer tous ces efforts, ce qui va dans le pays, tous ces efforts de femmes, tous ces efforts des jeunes qui, malgré la pauvreté, qui, malgré la crise, qui, malgré les problèmes qu'endure le pays, arrivent à se mettre dans des associations, arrivent à s'entraider dans la communauté. Il n'y a pas que de mauvaises choses que l'on doit rapporter.
Le journaliste burundais Éloge Willy Kaneza, récipiendaire du prix Peter Maclear 2016.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En France, plus de 2300 migrants ont été évacués hier sans incident de la jungle de Calais à bord d'autocars, les dirigeants dans des centres d'accueil répartis sur tout le territoire français. Le démantèlement de cet immense bidonville accueillant 6000 à 8000 hommes, femmes et enfants devrait être finalisé jeudi. Le camp est promis à une démolition rapide. Dès aujourd'hui, les pelleteuses devraient commencer à déblayer tentes et baraquements. L'auberge des migrants fournit de la nourriture, des vêtements et assiste les migrants dans leur démarche depuis 2008. Claire Morin-Gibourg a joint son vice-président François Ganoc.
Alors cette première journée est très encadrée par des forces de police considérables, avec aussi énormément de journalistes. C'est bien passé. C'est pas une surprise parce que une partie de la population du camp, de toute façon, voulait partir, voulait aller dans les centres d'accueil et d'orientation que le gouvernement a ouverts. Et il semblerait qu'à peu près un petit 2000 personnes soient parties aujourd'hui. Nous, de notre côté, les associations ont divers rôles sur le camp. On s'est contenté d'assurer notre travail habituel, qui consiste à préparer 2500 repas chauds, à distribuer en particulier en ce moment des sacs. On n'a pas vraiment participé à cette évacuation dans la mesure où on n'est pas d'accord ni avec le fait que le gouvernement ne propose pas pour nous une offre suffisante, si vous voulez, pour une partie de la population, et aussi du fait du caractère précipité de cette évacuation.
Et que vont devenir les migrants qui refusent de quitter la jungle ?
Alors pour l'instant, il y a des gens qui hésitent et il y a des gens qui effectivement ne veulent pas partir. Alors ceux qui hésitent, c'est en particulier les personnes qui, on dit dans le jargon européen, sont dublinées, c'est-à-dire ont laissé leurs empreintes digitales et en général pas de leur plein gré, en général de force, en Italie, en Grèce, en Bulgarie, dans le pays d'arrivée en Europe. Et ces personnes-là sont supposées demander l'asile dans ces pays-là et donc risquent l'expulsion. M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a promis qu'elle pourrait quand même demander l'asile en France, mais pour l'instant, on a des éléments contradictoires là-dessus, on n'a pas l'assurance qu'ils pourront le faire. Et il reste une partie de la population du camp qui, eux, tiennent à tout prix à leur projet en Grande-Bretagne. Une partie est déjà partie ailleurs, notamment à Paris, 2 à 3 000 personnes environ. Ces personnes-là probablement chercheront à revenir peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines. L'autre est encore sur le camp et va aussi peut-être partir ou peut-être monter dans les bus, mais avec un projet de revenir à terme, à court terme.
Et alors selon vous, le gouvernement français annonce que le démantèlement doit être fini dans quelques jours, dans 4 jours exactement. Est-ce que vous pensez que c'est possible ?
Oui, c'est possible. À partir de demain peut-être ou après-demain, des bulldozers vont arriver pour un petit peu commencer à pousser quelques cabane et faire comprendre aux personnes que ça y est, c'est la fin du camp. On aura encore sans doute une ou deux journées où il y aura pas mal de candidats pour monter dans les bus sur les centres d'accueil. Comme je vous le disais, peut-être les autres vont se disperser et effectivement, en fin de semaine, il ne devrait plus y avoir personne dans le bidonville. Sachant qu'il restera des personnes dans les deux structures que sont le centre Jules Ferry avec la Maison des Femmes et le CAP, c'est-à-dire le camp de conteneurs où le gouvernement met les mineurs isolés dont il pour l'instant, il ne sait pas tout à fait vraiment quoi faire.
C'était François Ganoc, vice-président de l'association L'Auberge des migrants à Calais, en France. Maintenant, un hommage à une icône de la photographie à Brazzaville, Victor Miakabana, dit Maccabus, de la République du Congo. Notre correspondant Nguela Ngusu nous le présente.
À 65 ans, Maccabus est incontestablement l'un des vieux photographes du Congo-Brazzaville encore en activité. Il a connu le grand format, cet appareil où il fallait plonger la tête dans l'objectif pour faire une image.
C'était dans les années 71, mais je ne connais pas la date. Chaque matin, je partais chez Dekoum. Il disait à ce cadet, il faut lui apprendre. J'ai commencé à faire les reçus, un client vient, bon.
Dans le temps avec les photos russes, on attendait 2 semaines. Vous voyez, vous allez à la poste, vous mettez les clichés dans les enveloppes, on vous envoie des photos en 2 semaines.
Du haut de ses 45 ans de carrière, Maccabus n'a pas connu que le bonheur. La photo l'a envoyé 2 fois en prison. Dans les années 70, à cause d'une image de Ange Diawara, à l'époque sujet de contre-révolutionnaire.
C'est Ngouabi qui donne le mot d'ordre. Allez-y me chercher les photographes qui vendent des photos de Diawara là. Ils sont venus en 504. Allons-y, il y a les présents qui vous cherchent. Moi j'ai dit, quel présent ? Sassou au devant, il rentre, il fait ça, il salue les présents Marien Ngouabi. Il dit, monsieur le présent, le fameux photographe, il me regarde comme ça, Ngouabi. Il dit, mais il est encore très jeune, mais il est courageux.
Une histoire qui n'éteint pas la flamme du photographe, car à la conférence nationale en 1991, il réalise les plus belles œuvres de sa carrière. Jean-Michel Bokwambaï Nguma, Isabelle Fila Lemina ou Grégoire Lefoba peuvent encore admirer la beauté de leur jeunesse sous les images de Maccabus. Mais un travail très peu connu de Congolais, selon les bons Chansar Ziavoula, jeune photographe de métier à Brazzaville.
Bon, Macabus, c'est parmi les grands photographes du pays, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas eu la chance d'exposer, que ce soit au niveau national qu'international. Une partie de ses œuvres a été pillée lors des événements que le Congo a connus. Quelques clichés qui restent en noir et blanc, mais c'est connu de lui, c'est ses archives, mais l'état ou le milieu culturel congolais ne connaît pas ses œuvres.
Macabus laisse bonne impression dans les milieux de photographes. Au Bayoum, une quarantaine d'expériences sous les dos se souvient.
Mais avec Macabus, nous étions comme les grands reporters. Dès que je suis revenu de la France vers la photographie, on a trouvé la conférence nationale en 1991. C'est là que nous étions des grands reporters. Surtout Macabus, c'était les anciens pour moi. Je l'ai connu après. Et à ce moment, à la conférence, c'est là où je l'ai connu de plus en plus. Comme le truc de Diawara, c'est pas là où il était parti en prison parce qu'il a fait les photos. Parce qu'à ce moment, la photographie c'était un art. Je veux dire, en camp d'événement, tu dois être là.
Retiré à Kibina, un quartier sud de Brazzaville, Macabus voit dépérir dans l'anonymat le chef-d'œuvre de toute une vie d'artiste à dévot de l'immortaliser. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Présidentielle américaine 2016, Hillary Clinton garde son avantage contre Donald Trump, un avantage qu'elle entendait consolider grâce au vote anticipé, désormais possible dans plusieurs États, dont la déterminante Floride. Jacques Aristide.
En effet, les électeurs de Chicago, Washington, Charlotte, Miami ou Las Vegas peuvent déjà se rendre dans des bureaux de vote et glisser leur bulletin dans l'urne, une option de plus en plus disponible à chaque élection à travers les États-Unis. Ces bulletins ne seront dépouillés que le mardi 8 novembre, jour officiel du scrutin. Celle qui espère devenir la première femme présidente des États-Unis a fait campagne dans le New Hampshire, où les sondages la donnent largement gagnante. Elle était venue donner un coup de pouce à la candidate démocrate au Sénat, Maggie Hassan. Les démocrates estiment possible de reprendre la chambre haute du Congrès aux républicains, ce qui aiderait une éventuelle présidente Clinton à faire voter ses réformes.
We've got to break through the gridlock and the dysfunction that has unfortunately marred Washington.
Nous devons mettre fin au dysfonctionnement qui paralyse Washington, a-t-elle lancé, précédée sur scène par la sénatrice anti-Wall Street, Elizabeth Warren, hussarde préférée du camp démocrate contre Donald Trump.
Et Jacques, pas moins de 37 des 50 États américains proposeront le vote anticipé en personne d'ici au jour J, et tous offrent le vote par courrier, selon des règles variables.
Oui, Drissa, au total, en 2012, un tiers des bulletins de vote ont ainsi été transmis en avance, d'après le Bureau du recensement, un record qui devrait être battu cette année, selon le camp Clinton. Des États comme le Nevada, la Caroline du Nord et la Floride pourraient être joués avant le 8 novembre, prédisait récemment Robbie Mook, directeur de campagne de Madame Clinton. L'ouverture du vote anticipé explique l'omniprésence de Donald Trump et Hillary Clinton en Floride, où les bureaux ouvrent depuis plusieurs jours et depuis hier matin à Miami. Le candidat républicain y a passé la journée de lundi et la démocrate y sera aujourd'hui et demain, jour de son 69e anniversaire. « Nous sommes en retard », a reconnu Kellyanne Conway, directrice de campagne du promoteur immobilier, dans un rare aveu. Mais Donald Trump a dénoncé le biais des sondages, selon lui, au profit des démocrates.
« So I actually think we're winning, and what they do is they show these phony polls where they, you know, where they look at Democrats. »
La vérité, selon moi, est que nous sommes en train de gagner, a-t-il dit à une table ronde d'agriculteurs à Boynton Beach, déplorant le système truqué dont il parle depuis le début de la campagne. Au niveau du pays, Clinton recueille 45% des intentions de vote, contre environ 39% pour Trump et 6% pour le libertarien Gary Johnson.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOAAfrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOAAfrique.